Dans les entretiens sur la foi, Paris aux éditions Tecky, le cardinal Ratzinger déclarait « Vatican II avait raison de souhaiter une révision des rapports entre l'Église et le monde. Car il y a, dit-il, des valeurs qui, même si elles sont nées hors de l'Église, peuvent, une fois examinées et amendées, trouver leur place dans sa vision. » Et dans un interview à l'hebdomadaire Gesù, en Italie, il disait « Le problème des années 60, c'est-à-dire le problème du Concile, était d'acquérir les meilleures valeurs exprimées par deux siècles de culture libérale. » Autrement dit, il s'agirait de voir, d'après lui, l'intégration des valeurs de la culture libérale à l'Église catholique. Et parmi ces valeurs, il y a donc celle des droits de l'homme. Thème des droits de l'homme qui est particulièrement actuel aujourd'hui, ne serait-ce qu'à cause du bicentenaire qui s'est célébré l'année dernière, et puis également qui est rendu actuel par les prédications du pape Jean-Paul II un peu partout dans le monde, et par les transformations du monde communiste, puisque c'est au nom des droits de l'homme que, actuellement, dans les pays de l'Est, on combat le communisme, disons, stalinien. Et de fait, ce discours des droits de l'homme trouve actuellement sa place dans les discours des prédicateurs, puisque le père Calvez déclarait le 23 mars 85, à propos des conférences de carême qu'il avait données à Notre-Dame, « J'ai présenté les droits de l'homme comme un nouveau départ pour l'enseignement social chrétien. » Alors qu'en est-il? Nous voyons de plus en plus les hommes d'Église s'intéresser aux droits de l'homme. Et de fait, à première vue, il semblerait qu'il y ait convergence avec le message de l'Évangile. En effet, si nous prenons la déclaration de 1789, dans l'article 1, nous voyons traité, on parle d'égalité des hommes. Et l'Évangile ne dit-il pas que tous les hommes sont égaux devant Dieu? Dans l'article 2, il est question des droits naturels. Droits naturels qui sont la liberté, la propriété. La propriété est rappelée d'ailleurs à l'article 17. Et la résistance à l'oppression. À l'article 3, il est question de la liberté qui est de faire ce qui ne nuit pas à autrui. Et les droits de l'homme semblent donc parler en fait du respect du prochain. Et dans les articles 7 et 9, il est question du respect de la dignité humaine, de la liberté personnelle, de la liberté de s'exprimer. Et enfin, dans plusieurs articles, dans l'article 5, l'article 13 et l'article 14 de la déclaration de 1789, il est question de l'utilité commune. Donc, il semblerait qu'il y ait pas mal de points communs avec l'Évangile. Ce respect du prochain, ce dévouement à la cause commune, le respect de la personne humaine, tout cela semble, à première vue, en accord avec l'idéal évangélique. Et les autres déclarations ne changent pas essentiellement ces formulations. La déclaration de 1948 parle en effet de la foi dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l'égalité des droits des hommes et des femmes, et parle des droits de l'homme comme un idéal commun à atteindre. Et la déclaration de 1948 précise même que la famille est une cellule de base de la société. Il semble donc que les droits de l'homme permettent d'affirmer qu'il y a une justice transcendantale, une justice transcendante, un respect du prochain qui doit l'emporter sur la loi du plus fort, qui doit l'emporter sur l'injustice, qui doit l'emporter sur l'égoïsme. Tout cela semblerait, à première vue, en accord avec l'Évangile. Et pourtant, l'Église a condamné ces droits de l'homme dès le début. En effet, dans la bulle Quod Alicantulum, Pie VI déclarait que ces droits étaient des décrets sacrilèges, droits chimériques, droits monstrueux, articles si contraires à la religion et à la société. C'est un peu paradoxal. Nous voyons donc d'une part des droits qui, sur bien des aspects, sembleraient en accord avec l'Évangile, et d'autre part, l'Église qui les condamne dès le départ. Alors certains ont dit depuis quelques années que si l'Église avait condamné les droits de l'homme, c'était à cause du contexte anticlérical, parce que ces droits de l'homme avaient été promulgués dans le cadre d'une révolution qui était antireligieuse et que l'Église se trouvait alors persécutée à ce moment-là, et que de plus, elle avait des privilèges à retenir de par son alliance avec la royauté. Et aujourd'hui, nous dit-on, le contexte n'est plus anticlérical, donc le problème est totalement différent. Alors c'est cette question que je voudrais voir aujourd'hui. Dans quelle mesure peut-on admettre, dans la tradition chrétienne, ces droits de l'homme ? Mon propos sera donc très limité. Il est impossible de traiter du problème des droits de l'homme dans sa totalité. C'est un problème qui est très complexe, qui a de très nombreuses interférences, interférences avec la politique, interférences avec la crise de l'Église, interférences avec la morale, avec l'histoire et avec toute la philosophie politique. La question que nous nous posons simplement est de savoir si les droits de l'homme, dans leurs diverses formulations, peuvent être compatibles, peuvent être admis et prêchés par la tradition chrétienne. Et pour cela, une difficulté se pose tout de suite. C'est que le terme de droit de l'homme date de 1789. Alors on peut se demander si la question a un sens. Est-ce que ça a un sens de parler de droit de l'homme avant cette époque, puisque le concept, le mot n'existait pas? Est-ce que ce n'est pas une recherche absurde que d'essayer de trouver dans l'Église catholique, dans la tradition catholique depuis les origines, un enseignement doctrinal ayant rapport à ces droits de l'homme? Eh bien, en fait, si le terme est nouveau, si la formulation, si l'expression « droit de l'homme » est nouvelle, le problème, lui, n'est pas nouveau. Parce qu'en fait, qu'est-ce que c'est que le problème des droits de l'homme? C'est le problème de la vie publique. De la vie publique de l'homme, c'est le problème des rapports des hommes entre eux, c'est le problème du rapport des hommes avec la communauté politique, avec la société. Et donc, c'est un problème qui est aussi ancien que l'humanité. Autrement dit, qu'est-ce qui régit, qu'est-ce qui détermine la vie sociale? Est-ce que c'est la volonté des princes? Est-ce que c'est la volonté des puissants? Est-ce que c'est la volonté de l'argent, des puissances financières? Est-ce que c'est l'état de fait? Ou au contraire, est-ce qu'il n'y a pas une justice supérieure, une justice transcendante qui serait au-dessus des égoïsmes, au-dessus des intérêts particuliers? Cette doctrine des droits de l'homme concerne donc un problème qui n'est pas sans interférence avec l'Évangile et est tout de même quelque peu séduisante pour le chrétien, dans la mesure où l'on fait appel à un idéal de justice, où l'on combat l'égoïsme, où l'on combat la dictature, où on combat l'injustice. Alors il est clair que même si le but de l'Église n'est pas politique, si le but de l'Église est essentiellement spirituel, si le royaume de Dieu n'est pas pour ce monde, si comme le dit notre Seigneur Jésus-Christ, il faut d'abord chercher le royaume de Dieu et tout le reste nous sera donné par surcroît, c'est-à-dire qu'il faut d'abord chercher les choses spirituelles, après quoi les choses temporelles viendront, il n'empêche que cette question de la vie sociale, de la vie publique, n'est pas sans interférence avec l'Évangile. Et c'est pourquoi il se pose dès le début de l'Église. Même s'il ne faut pas s'attendre à trouver dans l'Écriture sainte une doctrine sur les droits de l'homme, ce serait un peu simpliste, il n'empêche que cette question a des incidences avec l'Évangile et avec la vie publique. Et je voudrais simplement ce soir vous exposer quelle a été la doctrine de l'Église sur les rapports de l'homme avec la société, sur les rapports des hommes entre eux, du point de vue de la vie publique. Pour ce faire, je donnerai brièvement, très brièvement, quelques indications sur la pensée de l'Église avant saint Thomas d'Aquin. Je développerai ensuite plus particulièrement la doctrine de saint Thomas d'Aquin. Si nous avons le temps, j'essaierai de développer le changement doctrinal qui s'est opéré au XIVe siècle, qui me semble très important. Ce n'est pas de l'histoire, purement de l'histoire, gratuitement. Ce n'est pas de l'érudition, mais il me semble que, comme vous le verrez, qu'il y a eu un changement considérable du point de vue doctrinal au XIVe siècle. Et nous en tirons enfin quelques conclusions. Il faut dire tout de suite que les premiers chrétiens, les tout premiers chrétiens au premier siècle, n'ont pas participé à la vie publique, à la vie politique, et pour cause. Et pour cause, c'est qu'ils étaient persécutés par l'Empire. Ils étaient persécutés par l'Empereur, et donc malgré eux, ils étaient tenus en dehors de la cité, en dehors de la vie politique. Mais ils n'ont jamais refusé, observons-le bien, les premiers chrétiens, malgré les persécutions, n'ont jamais refusé l'obéissance au prince. Ils n'ont jamais refusé l'obéissance à l'empereur et la soumission à l'ordre de la cité. Saint Paul lui-même disait qu'il fallait être soumis aux autorités. Et lorsque l'empereur Constantin arrive au pouvoir, la fidélité à l'Église et la fidélité à l'Empire s'identifient, deviennent une seule et même chose. Si le chrétien est fidèle, il doit aussi être fidèle à l'Empire, puisque l'empereur est devenu chrétien. Et inversement, si l'empereur est chrétien, et c'est le cas, mis à part cette éclipse de Julien l'Apostat, c'est le cas à partir de Constantin, si l'empereur est chrétien, il doit se conduire conformément à l'Évangile. Et donc les évêques auront soin de rappeler les empereurs à l'ordre s'ils ne se conduisent pas conformément à l'Évangile. C'est ce qui vaudra à l'empereur Théodose d'être soumis à une pénitence publique. Une chose un peu inimaginable aujourd'hui. Pourrait-on imaginer M. Mitterrand à la porte de Notre-Dame venant recevoir les cendres sur la tête et porter l'habit de pénitent public pour ses fautes politiques? Eh bien, c'est ce qui s'est passé au IVe siècle. Oui, c'est cela, au IVe siècle, de par saint Ambroise, qui a exigé une pénitence de l'empereur Théodose, qui avait ordonné un massacre dans une ville. Bien. Mais voyez, ceci, c'est une pratique, en fait. Il n'y a pas de doctrine sur cette question, mais c'est surtout une pratique. On considère que le chrétien doit être fidèle à l'Empire et que l'empereur lui-même doit être fidèle à l'Évangile, sans qu'on aille beaucoup dans les détails. On trouve par contre chez saint Augustin quelques éléments de doctrine du droit, de doctrine politique, chez saint Augustin, essentiellement dans le traité sur le libre arbitre et dans la Cité de Dieu. La Cité de Dieu n'est pas un ouvrage doctrinal à proprement parler, c'est surtout un ouvrage pastoral et apologétique. Le but de la Cité de Dieu, c'est de montrer que le chrétien, que si l'Empire a des difficultés politiques, ce n'est pas à cause des chrétiens, mais c'est malgré eux. C'est malgré eux. Et que la cause des malheurs de l'Empire, c'est le paganisme. Et pour cela, saint Augustin est obligé de traiter quelque peu de politique, pour montrer comment les chrétiens se situent par rapport à la question politique. On pourrait résumer la doctrine de saint Augustin ainsi. C'est que l'ordre juridique romain, l'ordre de l'Empire romain, est un ordre qui est injuste en soi, mais il faut s'y soumettre, car il procure une certaine paix et il émane d'une certaine manière de la Providence. Il est permis par la Providence. La justice chrétienne, la justice vraiment chrétienne, elle, est intérieure, elle est spirituelle, elle n'est pas politique, et sa sanction vient après la mort. L'empereur, lui, doit honorer Dieu, même en tant qu'empereur. Et il a pour mission de conduire ses sujets à une vie véritablement vertueuse. Saint Augustin considère que l'empereur doit faire en sorte que les sujets de l'Empire puissent devenir chrétiens et puissent mener une vie de bons chrétiens. Non seulement le puissent, mais qu'ils y soient conduits. Tel est le rôle de l'empereur. L'idéal serait donc la soumission du droit de la cité terrestre à la justice chrétienne. Deux points donc sont à retenir, je résume très brièvement, deux points sont à retenir de la doctrine de saint Augustin. D'une part, il faut se soumettre à l'État établi, ce que nous appellerions aujourd'hui le droit positif. Il faut se soumettre au droit positif malgré son injustice, parce qu'il concourt au bien commun. Mais il faut tendre à soumettre ce droit à celui de l'Évangile. Donc, deux principes, deux points, c'est que d'une part, il doit y avoir une soumission à l'Église, mais d'autre part, il faut accepter le fait historique, le fait de l'Empire tel qu'il est. Et nous trouvons ici le germe de deux principes qui seront tenus par les juristes modernes, ou par des doctrines futures, à savoir d'une part ce qu'on appelle le positivisme juridique, c'est-à-dire le droit du fait établi, accepter le fait historique du droit civil, accepter la cité politique telle qu'elle est, même s'il est souhaitable d'y changer quelque chose, il faut quand même se soumettre à l'ordre tel qu'il existe, d'une part, c'est ce qu'on appelle le positivisme juridique, mais d'autre part, la cité doit être soumise à l'Église. L'Église doit dominer la politique. Et c'est ce qu'on appellera l'augustinisme politique. Vous voyez que ce sont deux principes qui sont assez généraux et qu'on peut interpréter de différentes manières. La soumission de l'État à l'Église, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que les évêques et le pape doivent gouverner l'État, hein, ce serait véritablement une théocratie, ou est-ce que ça veut dire au contraire simplement qu'il y a un rapport entre l'Église et l'État? C'est à discuter, bien sûr. De même, quant au positivisme juridique, dans quelle mesure peut-on l'admettre? C'est assez discutable. Saint Augustin ne donne pas de détails, il donne simplement les grands principes. Et de fait, dans les premiers siècles de l'Église, même si Saint Augustin traite de cette question pour expliquer le rôle des chrétiens, comment les chrétiens se situent par rapport à l'Empire, Saint Augustin n'a pas l'intention de donner une doctrine complète de la question politique. C'est saint Thomas d'Aquin, le premier. Saint Thomas d'Aquin, précisons, nous faisons un saut de quelques siècles, saint Augustin est mort en 431, saint Thomas d'Aquin est mort en 1274. Saint Thomas d'Aquin est le premier à constituer une doctrine complète, une vision théologique qui englobe aussi bien le droit civil, la question politique, que le droit ecclésial, que le droit sacré. C'est cette doctrine de saint Thomas d'Aquin qui est non pas définie par l'Église, parce qu'il n'y a pas de dogme en l'occurrence, l'Église n'a pas apporté de définition dans le domaine des doctrines politiques, mais c'est tout de même la doctrine commune de l'Église. Comment caractériser la doctrine politique de saint Thomas d'Aquin? Nous traiterons successivement de la notion de droit, de la question du bien commun, de la question du droit naturel, et enfin du rapport entre l'Église et l'État. La notion de droit, qu'est-ce que ça veut dire le droit? Qu'est-ce que c'est que le droit? Alors il faut tout de suite faire une distinction, et je dirais non, faire une différence. Lorsqu'aujourd'hui nous parlons du droit, nous avons tout de suite dans l'esprit droit, cela veut dire droit à quelque chose. J'ai droit au travail, j'ai droit à recevoir mon salaire, j'ai droit à pouvoir circuler dans la rue, etc. Dans le vocabulaire de saint Thomas d'Aquin, le terme de droit ne veut pas dire le pouvoir moral qui se rapporte à la personne. Le droit, c'est ce qui est droit. Ce qui est droit, c'est-à-dire ce qui est juste. Autrement dit, le droit, c'est une chose. Le droit, c'est toute action qui est droite, qui est juste. Le droit, jus, la traduction française donne mal, voyez-vous, parce que du point de vue étymologique, droit et justice s'écrivent par le même mot en latin, voyez. En français, nous parlons de droit et de justice. En latin, pour dire le droit, on dit jus, et pour dire justice, on dit justus, justitia. Donc, les deux vont ensemble, voyez. Eh bien, le droit, c'est la chose qui est juste. Le droit, dit saint Thomas d'Aquin, c'est une œuvre qui est adéquate à autrui selon une certaine égalité. Le droit, c'est la chose ou l'action qui est droite, qui est conforme à la justice. Et pour cela, il faut comparer à autrui, voir si c'est égal. Bon, eh bien, j'ai un contrat de travail qui me donne un salaire, mettons, de 2000 francs par mois, eh bien, il est juste que je reçoive 2000 francs par mois. C'est le droit, c'est égal, n'est-ce pas? La somme d'argent que je reçois sur mon compte, c'est celle qui est marquée sur mon contrat de travail. Ceci est juste, et c'est le droit. Voilà ce que c'est pour saint Thomas d'Aquin. Le droit, c'est la chose qui est droite. Donc, le droit signifie premièrement la chose juste. Et après, de manière secondaire, eh bien, la science qui nous permet de connaître ce qui est juste. Le droit, c'est une chose pour saint Thomas d'Aquin. Il faut bien comprendre ça, autrement on ne comprend pas ce qu'il a écrit. Le droit, c'est la chose qui est juste, ou l'ensemble des choses qui sont justes. Ce n'est pas un pouvoir moral, ce n'est pas la loi. La loi dit ce qui est juste, mais le droit, ce n'est pas la loi. Le droit, c'est la chose. Donc le droit, ou la chose juste, est le principe, correspond à la notion de droit chez saint Thomas d'Aquin. C'est ça, le droit, c'est la chose qui est juste. Dès lors se pose une question, qu'est-ce qui est juste? Qu'est-ce qui va décider ce qui est juste? Par rapport à autrui, par rapport à autrui, ce n'est pas bien difficile. Il suffit de garder les conventions. Il suffit de donner d'avoir une proportion certainement matérielle. Mais la question se pose par rapport à la société, vous voyez. Qu'est-ce qui fait la justice dans la société? Quel est le principe d'une action juste dans la société? Qu'est-ce qui fait, pour saint Thomas d'Aquin, qu'une action est juste, qu'une action est droite, qu'elle est conforme au droit, du point de vue social? Eh bien, le principe qui permet de répondre à cette question, pour saint Thomas, c'est le bien commun. C'est le bien commun qui est le principe du droit. L'homme est ordonné au bien commun par la justice générale. Saint Thomas d'Aquin distingue deux sortes de justice. La justice particulière, qui est la vertu qui règle les rapports entre les hommes. Par exemple, les rapports entre deux ouvriers, entre un commerçant et son client, entre un employeur et son employé. C'est le rapport des personnes entre elles, ou entre un vendeur, ou entre un garagiste, par exemple, et la personne qui achète les automobiles. Cela s'appelle le droit particulier. Et puis, il y a la justice générale qui règle les rapports de l'homme avec la communauté politique. Bien, c'est cette justice générale qui fait le droit, qui est la vertu par laquelle l'homme est ordonné au bien commun. Et c'est pourquoi saint Thomas dit que cette vertu est la plus grande de toutes. Je vous fais grâce des citations parce que je ne voudrais pas allonger cette petite conférence. Et puis, le vocabulaire de saint Thomas est un petit peu technique, il aurait du mal à être compris. Je tire cette doctrine de la Somme théologique, Secunda Secunde, question 58, pardon, Secunda, seconde partie de la seconde partie de la Somme théologique, question 58, où saint Thomas explique que le bien commun est supérieur au bien particulier. C'est une idée fondamentale du thomisme, non seulement du thomisme, mais de la doctrine de l'Église. C'est que le bien commun l'emporte sur le bien particulier. Ce n'est pas la personne qui est la valeur suprême de la société, pas du tout, c'est le contraire. Les hommes sont des parties d'un tout qui s'appelle la communauté politique. Et comme la partie est inférieure au tout, comme la partie est ordonnée au tout, ainsi l'individu est ordonné à la communauté politique. Quand je dis communauté politique, je ne dis pas l'État, je ne dis pas les fonctionnaires, je ne dis pas l'administration, je dis la communauté politique que tous les hommes forment ensemble, que tous les hommes d'une cité forment ensemble, parce que pour saint Thomas d'Aquin et pour toute la pensée médiévale, il n'y a pas de cité universelle. Il y a la cité concrète, celle qui existe aujourd'hui, celle dans laquelle je vis, hein, qui est ma commune, et puis au-delà, la province ou le canton, éventuellement une communauté supérieure, mais c'est la communauté politique qui existe, hein, c'est pas la communauté idéale, la communauté qui existe. Eh bien, c'est mon rapport à la communauté politique qui est au sommet de la vie morale, de la justice, du droit. Parler de justice, parler de vertu, parler de droit, c'est parler de la même chose. La plus grande des vertus, c'est celle qui nous fait vivre conformément au bien commun, conformément au bien de la communauté. C'est la plus grande des vertus. Et par conséquent, le droit, et c'est fondamental pour saint Thomas d'Aquin, le droit se rapporte à la communauté. Si on parle de droit, c'est par référence à une communauté politique. Ce n'est pas par référence à une personne. C'est fondamental. Le droit ne se rapporte pas aux personnes, il se rapporte à la communauté politique. Parler de droit, indépendamment de toute communauté, ça n'a pas de sens. Pour saint Thomas d'Aquin, ça ne veut rien dire. Le droit est par référence à la communauté politique. Et c'est le bien commun qui dit ce qui est juste. Alors je vais donner un exemple. La propriété. Pour un homme moderne, le droit à la propriété, s'il n'est pas socialiste, ce sera de dire, eh bien c'est un droit de la personne humaine, c'est un droit de la famille. Pour saint Thomas d'Aquin, pas du tout. La propriété privée est droite, elle est juste. Oui, mais pourquoi ? Parce qu'elle est conforme au bien commun, tout simplement. Il est bon pour l'ensemble de la communauté que la propriété soit privée. C'est paradoxal, mais un peu d'expérience nous l'apprend. Vous savez bien que ce qui est d'usage commun est l'objet d'une commune négligence. On le voit bien dans toutes les communautés et même dans les séminaires, vous savez. Ce qui est commun est l'objet d'une commune négligence. Si on veut que les choses soient bien tenues, il faut qu'elles soient privées, autrement on ne s'en sort pas. À moins d'avoir affaire à une communauté religieuse et encore. Eh bien oui, Saint Thomas est réaliste, il voit les choses comme elles sont. Donc, la propriété privée est juste. Donc, il y a un droit de propriété privée. Mais voyez, ce n'est pas un droit de la personne. C'est parce que c'est conforme au bien commun qu'il y ait propriété privée. Et si par hasard, en cas de catastrophe, la propriété privée devenait nuisible au bien commun, ça pourrait arriver. Imaginez une famine, imaginez une catastrophe. Eh bien là, la propriété privée ne serait plus conforme au bien commun. Eh bien, il n'y a plus de droit à la propriété privée. De manière accidentelle, de manière exceptionnelle, vous voyez. Le droit se rapporte à la communauté politique, au bien commun. Premier point de saint Thomas, donc, le droit, c'est ce qui est conforme au bien commun. Deuxième point, d'où vient ce droit ? Qu'est-ce qui fonde ce droit ? Eh bien, au départ, c'est la nature. C'est-à-dire que il est des choses qui sont justes, qui sont droites, simplement de par leur nature, de par l'ordre du monde, de par l'ordre du monde. Il s'agit et comment le sait-on ? Eh bien, on observe la vie sociale, on observe la vie politique. Alors, prenons un exemple tout à fait concret, et c'est comme cela que saint Thomas procède d'ailleurs dans sa doctrine. La famille. Est-ce que la famille est quelque chose de juste ? Saint Thomas d'Aquin dira ceci, observons. Que se passe-t-il s'il n'y a plus de famille ? La société s'écroule, le bien commun s'écroule, donc la famille est une chose bonne, la famille est juste, la famille est conforme au droit. Donc il y a un droit pour la famille. Parce que l'expérience sociale, l'expérience de l'histoire, l'expérience de la vie politique nous apprend que la famille est nécessaire. Comment découvre-t-on ce droit naturel ? On le découvre par l'expérience de la vie, par l'expérience politique. Il y a des choses qui sont absolument constantes dans toutes les sociétés. Donc, elles appartiennent à la nature humaine. Et comme elles appartiennent à la nature humaine, elles sont droites, elles sont justes, selon la nature. C'est le droit naturel. Et la révélation n'y change rien. L'évangile n'y change rien. L'évangile n'y change rien. Ce droit est naturel, ce droit vient de la nature humaine, vient de la nature des choses, on n'y peut rien changer. Ce droit est évidemment très général, universel, il ne peut pas rentrer dans les détails, mais il est suffisant quand même pour donner quelques principes, comme par exemple la nécessité de la stabilité de la famille, le divorce, est une ruine sociale. C'est pas la peine de, pas nécessaire de faire appel à l'évangile pour le dire. L'expérience montre que la stabilité de la famille est difficilement assurée si le divorce est reconnu de droit public. Donc le divorce en soi est quelque chose qui est contraire au droit naturel. C'est un autre exemple. Voyez. On pourrait multiplier ainsi les exemples. Saint Thomas pose quelques distinctions dans lesquelles je ne rentrerai pas. Il distingue ce qui est strictement du droit naturel et qui est absolument universel, et puis ce qu'il appelle le droit des gens, le jus gentium, le droit des gens, c'est-à-dire les conclusions les plus communes, ce qui est valable pour la plupart des hommes, pour la plupart des sociétés, mais pas toujours. C'est ce qu'on appelle le jus gentium. Et puis, à ce droit naturel étant, bien évidemment, quelque peu universel, quelque peu général, a besoin d'être précisé. Et c'est là qu'intervient le droit positif, le droit public, le droit qui est posé par l'homme, le droit du législateur. Prenons un exemple encore. Voler est injuste. Il est clair que si on ne respecte pas les propriétés d'autrui, le bien commun va s'écrouler. C'est clair. Donc voler est injuste. Ceci, c'est du droit naturel. Le voleur doit être puni. Ça, c'est du droit naturel. Mais le voleur, doit-il faire 3 mois de prison? Doit-on lui couper la main, comme on faisait à une époque, comme on fait encore dans les pays islamiques? Ceci, le droit naturel ne le dit pas. C'est à la loi positive, c'est à l'autorité publique, à l'autorité politique, de déterminer ce droit naturel par des précisions, de régler, par exemple, l'usage du droit de propriété. Donc le droit naturel est précisé par le droit positif. Le droit naturel est précisé par le droit positif, mais précisons bien, ce droit positif, le droit qui est posé aujourd'hui par les parlements ou par les gouvernants, le droit qui, à l'époque de saint Thomas d'Aquin, était posé par les rois, tout simplement, ce droit ne fait que préciser le droit naturel. Il ne peut pas aller contre le droit naturel, autrement il est injuste. Il précise le droit naturel. Et ce droit naturel est connu par expérience, un peu comme le scientifique, vous comprenez, le scientifique étudie les lois de la nature. Comment connaît-on les espèces végétales? Comment connaît-on les lois de la nature? Par l'observation, par l'expérience. Eh bien, pour saint Thomas d'Aquin et pour toute la tradition catholique, il en est de même. Comment connaît-on le droit naturel? Par l'expérience de la vie politique. Il ne s'agit donc pas d'attendre des inspirations particulières. Il faut regarder le réel, regarder comment les gens vivent. Tout simplement. Et si on fait appel à l'évangile, si on fait appel à la révélation, c'est simplement pour confirmer cette expérience. Et de fait, notre Seigneur dans l'évangile nous dit que le mariage est indissoluble. Il dit lui-même que celui qui renvoie sa femme commet l'adultère. Mais dira saint Thomas d'Aquin, dira la tradition catholique avec lui, c'est que lorsque notre Seigneur dit cela, il ne fait que confirmer de manière sacrée, de manière surnaturelle, une chose qui est une vérité tout simplement naturelle. Et de fait, il n'y a pas besoin d'être catholique tout de même pour voir la nécessité de la famille. Donc la révélation, de ce point de vue-là, la révélation n'est qu'une confirmation nécessaire d'une certaine manière parce que l'homme est faible et qu'il est plus facile de recevoir ces choses par révélation que de découvrir soi-même, parce que découvrir soi-même les choses, découvrir soi-même la loi naturelle peut être difficile. Mais enfin, la révélation ne vient pas changer. Elle vient simplement préciser ou confirmer ce que l'on a déjà découvert, j'insiste bien, à partir du réel, à partir de l'expérience, à partir de la nature des choses, comme le physicien. Le physicien observe les plantes et les animaux, ce qui lui permet d'écrire des traités de zoologie. Et bien de même, le politique, celui qui fait de la science politique, observe les sociétés et il en induit le droit naturel, il découvre le droit naturel. Donc le droit se rapporte à la communauté, à la cité, non pas à l'individu. Le droit est ce qui est ordonné au bien commun. Et le droit naturel est ce qui est droit de par la nature des choses et est découvert à partir de la vie politique. dernier point, enfin, de la doctrine de saint Thomas d'Aquin, les rapports entre l'Église et la cité. Rapport entre l'Église et la cité qui vient du fait que ce bien commun temporel, ce bien commun de la cité, n'est pas le bien ultime pour le chrétien. Le bien ultime, c'est la vie éternelle. Au-delà du bien commun temporel, il y a un bien spirituel qui est Dieu. Et donc, de la même manière que l'homme est conduit au bien commun temporel par un prince terrestre, il est conduit au bien commun spirituel par notre Seigneur Jésus-Christ, par un autre prince. La société temporelle ne peut pas conduire à la vie éternelle. À la société temporelle va s'ajouter une société spirituelle dont le chef est notre Seigneur Jésus-Christ, qui est notre prince spirituel, qui doit nous conduire à la vie éternelle. Les deux sociétés ont donc un but différent. Bien temporel pour la société politique, bien spirituel pour la société ecclésiastique, pour l'Église, dont le prince est Jésus-Christ. Donc, deux pouvoirs distincts. Mais, attention, étant donné que la vie concrète unit le temporel et le spirituel, ces deux pouvoirs ne peuvent pas être séparés. Je veux dire que, abstraitement parlant, vous pouvez distinguer la vertu naturelle et la vertu surnaturelle. En théorie, vous pouvez distinguer la poursuite du bien temporel et la poursuite du bien spirituel. En théorie, vous pouvez distinguer la vie naturelle et la vie spirituelle. Mais en concret, toute vertu pour un chrétien, toute action, pardon, les vertus sont distinctes, mais toute action pour un chrétien est nécessairement surnaturelle. Même si c'est une action qui regarde le bien commun temporel. C'est-à-dire que si du point, au niveau des principes, au niveau théorique, on peut distinguer les deux, au niveau concret, ce n'est pas possible. Tout acte que je pose en tant que chrétien, tout acte public que je pose en tant que chrétien, est simultanément un acte qui se rapporte à la société politique et un acte qui m'ordonne à la vie éternelle. Je n'ai pas des actes naturels et des actes surnaturels, c'est pas vrai. Concrètement, les deux sont liés. Cela entraîne que, tout en étant distincte, la société politique est indirectement liée à l'Église. Je dis bien indirectement. Voyez-vous ? Il y a deux extrêmes desquels saint Thomas d'Aquin se distingue. Un extrême qui dirait la société politique n'est qu'un rouage de l'Église, n'est qu'une structure au service de l'Église. Dans ces conditions, il n'y a plus de cité politique, il n'y a plus que l'Église. C'est la théocratie, c'est le gouvernement des prêtres. Pas question. L'autre extrême serait de dire ça n'a rien à voir. La ligne tenue par saint Thomas, par l'Église, c'est que le pouvoir politique et le pouvoir spirituel sont tous les deux distincts, mais l'un est indirectement subordonné à l'autre. Indirectement. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que l'Église garantit et contrôle la conformité du pouvoir politique à l'Évangile. Mais, lorsque l'Évangile n'est pas en question, l'Église ne peut rien dire. De manière plus concrète, pour vous donner des exemples plus précis, eh bien, il est arrivé que Saint-Louis s'oppose au pape. Pourquoi ? Parce que le pape lui demandait d'intervenir et de prendre parti dans le conflit qu'il opposait à l'empereur. Et le roi Saint-Louis a dit, c'est une question purement politique, Le surnaturel n'est pas en question dans cette affaire, par conséquent, je n'ai pas à recevoir d'ordre du pape. Par contre, si le gouvernement édicte des lois qui sont contraires à la morale, comme par exemple l'avortement, alors l'Église considère qu'il est dans son tort. L'État doit protéger l'Église. Ce sont tous les rapports entre l'Église et l'État que je ne veux pas développer. Je vous donne simplement le principe. Le principe est ce qu'on appelle la subordination directe, indirecte, pardon, la subordination indirecte de l'État à l'Église. La communauté politique n'est pas une partie de l'Église, elle est distincte de l'Église, mais elle est indirectement ordonnée à l'Église, c'est-à-dire de par le concret des choses. Il n'est pas possible de faire une coupure en deux dans notre vie. Une partie pour Dieu, une partie pour la nature. Ça n'est pas possible. Concrètement, les deux sont liés. Et c'est pourquoi la communauté politique est indirectement ordonnée à l'Église. Je dis indirectement parce que si c'était directement, alors ce serait dire que la communauté politique serait une partie de l'Église, comme un diocèse. Alors là, certainement pas. Non. Le pouvoir politique est distinct. Accidentellement, il peut être lié, comme c'est le cas, ça a été le cas en Valais pendant un certain temps, avec le pouvoir politique de l'évêque. Mais ce n'est pas une situation tout à fait normale. C'est des situations exceptionnelles qui sont parfois nécessaires, mais la situation normale est quand même une distinction. Mais non pas la séparation. Telle est la doctrine de saint Thomas d'Aquin, qui est celle de l'Église, tout simplement. Celle de l'Église. Donc, en résumé, le droit pour saint Thomas d'Aquin, c'est une chose conforme au bien commun, qui est induite de la vie politique et qui est indirectement subordonnée à l'Église. Telle est la doctrine de l'Église, telle est la doctrine de saint Thomas d'Aquin. Le changement doctrinal qui s'est opéré en Europe occidentale concernant cette doctrine, concernant cette chose, ne vient pas de la Révolution de 1789. C'est beaucoup plus ancien. Les premières doctrines qui ont contesté cette doctrine du droit donnée par l'Église et par saint Thomas d'Aquin datent du XIVe siècle. Et ces changements, ces bouleversements doctrinaux qui ont eu lieu au XIVe siècle ont eu plusieurs auteurs, plusieurs protagonistes. J'en ai choisi un qui me semble le principal, le plus important, Guillaume d'Ockham. Guillaume d'Ockham est mort en 1347. Comme l'heure avance, je résumerai très très brièvement sa doctrine au risque de la caricaturer, malheureusement. Et je vous inviterai à vous reporter à d'autres ouvrages si vous voulez approfondir les choses. Guillaume d'Ockham est un franciscain. Guillaume d'Ockham est un franciscain, et dans la ligne de la théologie franciscaine, il prône un retour à la source unique du savoir qu'est la révélation. Il se défie de la philosophie, il se défie de tout ce qui est naturel. Chaque ordre religieux a un peu son charisme. Il faut reconnaître que l'ordre franciscain n'a pas tellement le charisme de la théologie. Alors, c'est la théologie franciscaine insiste sur la nécessité, et ce n'est pas totalement faux du reste, d'abandonner la sagesse philosophique pour revenir au pur évangile. Les gens qui veulent revenir au pur évangile, c'est toujours un petit peu dangereux. Et vous allez voir pourquoi. C'est que, en prônant ce retour au pur évangile, Guillaume d'Ockham méprise la philosophie. Et comme il méprise la philosophie, il méprise tout ce fondement naturel de la politique que nous voyons chez saint Thomas d'Aquin. Pour Ockham, les notions philosophiques n'ont aucune réalité. Les raisonnements philosophiques ne nous font rien connaître. La seule source de connaissance est la révélation. La nature, c'est ce que Dieu révèle, c'est ce que Dieu veut. La nature, le droit naturel, n'est pas connu à partir de la vie politique, à partir de l'expérience, il est connu uniquement par la révélation. Il n'y a aucune nature, aucune nécessité dans le monde. Ce qui est bon, c'est ce que Dieu veut. Ce que Dieu veut est bon du fait qu'il le veuille. Tout dépend de l'arbitraire divin. Au point que, dit Occam, Dieu aurait pu faire que la haine de Dieu fût méritoire, dit Occam. Occam dit que Dieu aurait pu nous commander de le haïr. Il nous a commandé de l'aimer, alors il faut l'aimer. Mais il aurait pu nous commander de le haïr, dit Occam. C'est un peu extrême. Bon, c'est une affirmation un peu provocante, d'ailleurs. Donc, pas question de s'appuyer sur la philosophie. Pas question de s'appuyer sur l'induction, sur l'expérience politique, l'expérience sociale. Sur quoi va-t-on s'appuyer ? Uniquement sur la révélation. Le droit naturel, ce n'est pas un rapport juste entre les choses. Le droit naturel, c'est ce qui est prescrit par Dieu. Le droit naturel est donc assimilé au droit de l'Écriture. Et ce droit naturel de l'Écriture sainte se concrétise dans les événements historiques. Ce qui se produit dans l'histoire et qui est suffisamment établi est voulu par Dieu. Par conséquent, le droit naturel, le droit, c'est aussi ce qui est établi dans l'histoire. Et c'est très différent d'avec saint Thomas, parce que pour saint Thomas, il faut induire à partir de l'expérience politique et voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, ce qui est conforme au bien commun, ce qui n'est pas conforme au bien commun. Pour Occam, pas du tout. Il faut voir ce que Dieu enseigne et ce qu'il a permis dans les événements de l'histoire. À partir du moment où un empire est établi, il est juste, quoi qu'il puisse s'y passer. C'est le règne du droit établi. Voyez-vous, les événements historiques, le droit positif, le droit établi, est... reçoit une garantie divine. La garantie divine est imprimée non seulement sur l'Écriture sainte, mais encore sur les événements de l'histoire. Le droit se réduit donc au droit positif. Le droit se réduit à un ensemble de lois émanant d'autorités parallèles et concurrentes, des volontés arbitraires et absolues, que ce soit la volonté du prince ou que ce soit la volonté de Dieu. Et c'est pourquoi Luther, qui du point de vue philosophique est un héritier d'Occam, soutiendra les princes allemands dans la répression de la révolte paysanne. Les paysans, voyant que les seigneurs se sont révoltés contre l'Église, en ont pris prétexte pour se révolter contre les seigneurs. Et de fait, ils n'avaient pas tout à fait tort, parce qu'il y avait quand même pas mal d'injustices. La répression sera terrible et sanglante. Luther l'approuvera. Le premier point qui est une différence considérable d'avec saint Thomas d'Aquin, pas d'induction à partir de la nature, mais uniquement un droit qui s'impose de par la volonté de Dieu, de par la volonté du prince. Deuxième point que je ne développerai pas, c'est qu'en conséquence, le pape ne possède d'autre pouvoir que ce que lui concède explicitement l'Écriture sainte et l'ordre établi. Quels sont les principes du pouvoir du pape ? L'Écriture sainte, l'ordre établi. Or, l'ordre établi, qu'est-ce que c'est ? C'est l'Empire. Donc, l'Empire est indépendant du pape. Séparation de l'Empire et du pape. Aujourd'hui, on dirait séparation de l'Église et de l'État. Occam dit séparation de l'Empire et du pape. Et de fait, Occam va soutenir l'empereur dans sa lutte contre le pape, ce qui lui vaudra d'être excommunié et puis d'avoir une fin assez lamentable. Bon. L'empereur est indépendant du pape, donc laïcisme. Laïcisme avant la lettre, en quelque sorte. Séparation de l'Église et de l'État, séparation de la cité et de l'Église. Et enfin, troisième point très important de la doctrine d'Occam, c'est que comme il n'y a plus de nature, comme il n'y a plus de notions universelles, il n'y a plus que des individus. Il n'y a plus que des individus. Il faut revenir au pur évangile. Le pur évangile, c'est la destinée surnaturelle de la personne humaine. Par conséquent, la personne humaine l'emporte sur la cité politique. Le droit se rapporte à l'individu et non plus au corps social. C'est la différence fondamentale d'avec saint Thomas d'Aquin. Pour Thomas d'Aquin, en effet, l'individu est ordonné à la cité, comme je vous le disais. Eh bien, pour Occam, au contraire, la cité n'est qu'une somme d'individus. Des individus qui sont au-delà de la cité, des personnes qui sont au-delà de la cité. Et donc l'ordre social, l'unité sociale, disparaît au profit de la juxtaposition des individus. Le droit se rapporte à la personne. Et c'est à partir d'Occam que le mot droit prend le sens que nous lui connaissons aujourd'hui. Quand nous disons « j'ai droit au travail », j'ai droit à la santé, j'ai droit à l'avortement libre et gratuit, j'ai droit aux vacances, etc., etc. Mais c'est la conception occamienne du droit. Le droit se rapporte à la personne, la société est au service de l'épanouissement de la personne humaine. Et c'est manifeste pour le droit de propriété. Pour Occam, par exemple, il y a un droit de propriété, un droit absolu. Droit absolu de propriété qui se rapporte à la personne. Et dans ces conditions, l'autorité sociale n'a plus pour fonction de réaliser le bien commun, mais simplement de garantir l'usage des libertés individuelles. Ma liberté s'arrête ou commence celle des autres. L'État libéral est fondé par Occam, conceptuellement parlant, s'entend bien sûr. L'État libéral est radicalement fondé chez Guillaume d'Occam, puisque la personne l'emporte sur la société. Et le but de l'autorité sociale, c'est simplement d'arranger les libertés individuelles pour que les gens ne se tapent pas trop dessus dans la rue, n'est-ce pas? Mais un point, c'est tout. C'est le libéralisme. Donc, volonté humaine et divine absolue fondant le droit, laïcisme et personnalisme. Telles sont les caractéristiques de la doctrine occamienne du droit. Vous voyez que le changement est considérable d'avec saint Thomas d'Aquin. L'Église tiendra toujours la doctrine de saint Thomas. Mais la doctrine d'Occam va se diffuser néanmoins et elle aboutira au protestantisme et au libéralisme. Sans compter qu'elle pénétrera aussi pas mal dans la scolastique décadente. Mais ce serait une autre histoire. Et ceci nous amène tout naturellement à notre conclusion, c'est-à-dire la raison de la condamnation par l'Église des droits de l'homme. Droits de l'homme qui sont dans la ligne de la philosophie occamienne. Quel est le principe, en effet, du droit pour Occam? C'est la volonté de Dieu et la volonté de l'homme. Le droit, c'est ce qui vient de la volonté de l'homme et de la volonté de Dieu. Eh bien, vous voyez qu'il suffit de remplacer... Et notez que cette volonté de Dieu est connue par un instinct humain, par l'intelligence humaine. Eh bien, voyez qu'il suffira de laïciser quelque peu la doctrine d'Occam et d'enlever l'Écriture sainte pour attribuer à la conscience humaine un instinct divin. Et c'est bien une première caractéristique de cette déclaration des droits de l'homme. C'est qu'il n'y a pas de droit naturel induit à partir de l'expérience politique, mais il y a au contraire un instinct de la personne humaine, un instinct de la conscience humaine. Il y a des droits sacrés qui sont issus d'une conscience humaine divinement inspirée. En substance, c'est ce que l'on trouve dans cette déclaration des droits. Conscience qui est individuelle ou collective. Alors, selon qu'on a affaire à un État libéral ou à un État totalitaire, la conscience sera individuelle ou collective. Peu importe, c'est la fameuse volonté générale. Fameuse volonté générale dont il est question dans les articles 2, 3 et 6 de la Déclaration des droits de l'homme. Le droit tient sa source dans l'inspiration de la conscience humaine. Non pas de la nature des choses, non pas d'expérience, non pas du réel, mais des utopies qui naissent de la conscience humaine et des mouvements d'opinion et de la volonté générale. Droit sacré, sacré. Sacrés parce qu'ils ont la garantie divine. Et si Dieu est enlevé, eh bien à la place de la garantie divine, on a la garantie de la conscience humaine, la garantie de l'histoire, le sens de l'histoire, les divinités modernes. À la place de Dieu, aujourd'hui, il y a le sens de l'histoire, il y a la conscience humaine et tous ces concepts, le sens de l'évolution. Tout cela, c'est le Dieu moderne, et c'est ce Dieu moderne qui garantit les droits de cette déclaration. Deuxièmement, primauté de l'homme sur la société, il est manifeste que ces droits garantissent premièrement, les libertés individuelles. La société est au service de la personne. La communauté politique est au service de la personne. Et troisièmement, enfin, laïcité. Il est manifeste également dans cette déclaration des droits, que je ne veux pas lire en détail pour éviter d'allonger trop cet exposé. Eh bien, il est manifeste dans cette déclaration des droits que le droit est indépendant de l'Église, que l'Église n'a rien à voir, hein, puisqu'il est question de liberté de penser, de liberté d'écrire, liberté de s'exprimer, sans aucune garantie morale, sans aucune garantie doctrinale. L'Église est mise à la porte de la société. Et enfin, primauté de l'homme, laïcisme et primauté de l'homme sur la société. Donc, ruine de la société civile. L'unité du corps social étant détruite, diverses autorités parallèles et concurrentes produiront un ensemble de lois par laquelle on assurera la cohésion sociale contre les actions divergentes des libertés absolues. C'est le règne de la volonté du prince, règne de la volonté du prince, disons aujourd'hui règne de la volonté de l'État, règne de la volonté des fonctionnaires, règne de l'empirisme, et source de l'opposition dialectique entre les libertés individuelles et l'autorité du prince. Pour saint Thomas d'Aquin, l'autorité du prince et l'autorité des personnes sont complémentaires, elles s'appellent l'une l'autre. Dans la conception moderne, l'autorité personnelle, la liberté personnelle et l'autorité du prince, ou celle de l'État, sont opposées. Et l'histoire politique moderne ne fait qu'osciller d'une à l'autre à travers les révolutions successives. La cité est soumise à l'empirisme des gouvernants, cherchant tant bien que mal à assurer la cohésion d'une société minée par les libertés antagonistes, et en oscillant de l'anarchie au totalitarisme, en passant par les libéralismes plus ou moins avancés. Et c'est pourquoi l'autorité doit assurer sa cohésion contre l'effet désagrégateur des libertés absolues et concurrentes. Et je pense que nous en avons une illustration tout à fait caractéristique avec ce qui se passe actuellement en URSS. C'est qu'il y a une conception de la liberté et de l'autorité qui est celle des droits de l'homme, et on semble vouloir passer de du primat de la conscience collective à celui des libertés individuelles. Mais sans qu'il y ait l'unité organique des choses, sans qu'il y ait l'unité organique des choses, et en conséquence, c'est le laxisme, c'est le libéralisme qui s'installe avec l'anarchie, mais non pas la construction d'un corps social. Que se passe-t-il en pratique? Vincent Pellegrini nous l'expliquait une fois ici. Il nous disait, eh bien, avant la perestroïka, lorsqu'un taxi vous demandait un supplément par rapport au prix marqué, il faisait 6 mois de prison. Ben maintenant, il vous le demande et il n'y a plus rien à dire. Donc en fait, cette liberté, c'est la liberté laxiste, mais ce n'est pas la liberté qui fait l'unité du corps social. C'est donc l'anarchie, un État qui se désagrège. Pour combien de temps et comment cela va-t-il se terminer? Nous n'en savons rien. Mais on passe visiblement, est-ce que les dirigeants le veulent ou ne veulent pas, est-ce que c'est malgré eux ou pas, nous n'en savons rien. Mais toujours est-il qu'on voit l'opposition entre d'une part un État totalitaire et d'autre part la liberté anarchique. Et ça, c'est tout le drame de la société moderne. C'est tout le drame de la société moderne et la raison de toutes les guerres civiles qu'on aurait pu éviter si on avait écouté l'Église. Le primat de la conscience humaine, collective ou individuelle, le primat de la personne sur la société, le primat de l'homme sur l'Église. Ruine de l'Église, donc, et la condamnation du magistère ne porte pas sur les circonstances historiques, elle porte bien sur la nature même des droits de l'homme. Il s'agit donc d'une idéologie de la personne humaine qui est incompatible avec le christianisme et qui est comme une charte du culte de l'homme. Je vous remercie. Je suis passé très rapidement sur certaines notions. Je pense qu'il y a sans doute pas mal d'objections, de questions, d'oppositions. Je crois que ce sera intéressant d'en débattre. J'ai volontairement réduit l'exposé et je vous le dis, passer rapidement sur certaines questions de manière à ce que ces compléments puissent être exposés à l'occasion de questions. Je crois que c'est beaucoup plus vivant, comme ça tout le monde peut participer.
rejoint la pensée des droits de l'homme.
Est-ce que la doctrine juive rejoint la pensée des droits de l'homme? Disons que il est certain que le judaïsme a eu un grand rôle dans l'inspiration de tout le courant maçonnique. J'avoue que je connais mal cette doctrine juive. Il est clair qu'il y a une volonté d'écarter l'Église, donc dans le laïcisme, certainement, et une volonté aussi de libéralisme et d'individualisme. De fait, on trouve historiquement les juifs mêlés à tous les courants subversifs. Mais ça, je ne saurais pas dire, je connais mal, disons, ce qu'on appelle le sionisme et toutes les doctrines juives, donc je ne pourrais pas trop m'avancer sur ce terrain. Oui. Oui, c'est ça. Alors, de fait, on pourrait se demander si les droits de l'homme n'auraient pas une utilité aujourd'hui, parce que, de fait, c'est l'argumentation dont se sert Jean-Paul II et dont se servent beaucoup de personnes contre le communisme. On dit, mais pour lutter contre le communisme, il faut prêcher les droits de l'homme, parce que le communisme est totalitaire, donc il faut défendre la liberté religieuse, il faut défendre la liberté dans les régimes totalitaires, et pour cela, il faut prôner les droits de l'homme. Ce qu'on oublie, c'est qu'en fait, ces régimes totalitaires sont fondés sur la même idéologie. Sur la même idéologie. Donc, en fait, prôner la primauté de la personne humaine sur la cité politique, sur la cité, n'est pas la solution au totalitarisme. Ce n'est pas la solution. On aboutit au règne des égoïsmes et à l'anarchie. Ce n'est pas la solution. Et d'ailleurs, l'évolution actuelle des pays communistes est tout à fait provisoire, me semble-t-il. Parce que si elle continue d'évoluer vers l'anarchie comme cela semble, tôt ou tard, il y aura une reprise en main. Oui. Non. Alors, il y a qu'est-ce qu'il y a de comment les droits de l'homme préparent-ils le totalitarisme? Bon, d'une part dans le laïcisme, parce que le régime totalitaire ne veut pas se soumettre à l'autorité religieuse. Deuxièmement, il y a toujours cette volonté d'un droit qui n'est pas tiré de manière positive à partir de la vie politique, à partir de la nature, mais cette volonté de changer la nature, cette volonté d'imposer quelque chose à la nature, cette volonté d'une conscience collective, cette fois, qui doit former un homme nouveau et qui s'impose à la nature, qui est divinement inspiré. Alors, divinement inspiré, entendons-nous, la divinité n'est plus Dieu, le Dieu des chrétiens, la divinité, c'est l'humanité, c'est le prolétariat, c'est le sens de l'histoire, c'est l'évolution, etc., etc. Mais il y a comme une espèce d'inspiration qui vient prôner ce qu'il faut faire, voyez, et qui n'a aucun frein. Qui n'a aucun frein. Et quant à la personne, il est vrai que la personne humaine, il n'est pas question de primauté de la personne sur la société, mais il est question de primauté de l'homme. De primauté de l'homme. Cette primauté de l'homme, en l'occurrence, passe par la réalisation de la primauté d'une race ou de la primauté du prolétariat ou d'autre chose. Mais vous avez toujours, d'une part, ce laïcisme, et d'autre part, cet instinct divin d'une conscience qui impose la vérité, indépendamment des faits. C'est pourquoi Rousseau dit « Écartons les faits, car ils ne touchent pas la question ». Autrement dit, il y a une conscience, un instinct divin qui impose la justice. Il n'est pas question de faire... Chaque fois que face à ces choses-là, vous faites appel au réalisme politique, eh bien, on vous fait remarquer que le pouvoir de l'homme, c'est précisément de changer la nature. Et de casser... Vous voyez encore, quand on dit dans tous ces régimes, le but de ces régimes, c'est d'enlever les inégalités. Le but des réformes politiques, c'est d'enlever les inégalités. C'est bien l'instinct de la conscience qui va contre la nature des choses. Parce que pour l'unité de la société, il est nécessaire qu'il y ait des inégalités. La nature est inégale. Eh bien, le rôle de la société, disent-ils, c'est précisément d'enlever les inégalités. C'est le programme de tous les partis socialistes, ça. Enlever, réduire les inégalités. Les plus réalistes disent réduire les inégalités, parce qu'ils se rendent compte qu'on ne peut quand même pas les abolir complètement. Mais il faut les réduire au maximum. C'est bien une démarche de l'esprit qui refuse la nature. Une démarche de l'esprit a priori qui s'impose, qui impose sa volonté, voyez-vous. C'est une laïcisation du théologisme d'Occam. Pour Occam, c'est l'écriture sainte, le fait, et plus l'ordre établi. Eh bien, il n'y a plus d'écriture sainte, bien sûr, mais il y a les nouveaux prophètes. Donc c'est la même démarche d'esprit, fondamentalement. Voyez. Oui. Oui, c'est un peu la même chose, oui.
Mais alors, il y a une contradiction fondamentale quand vous dites la priorité de la communauté sur l'individu. Or, les socialistes, eux, disent la priorité, donc les droits de l'homme. C'est l'individu qui serait prioritaire. Or, en fait, le communisme dit, le marxisme dit non, l'individu est soumis au principe communautaire. Et comment se fait-il qu'on ne comprenne pas mieux cela ?
Alors, faisons bien attention dans le communisme.
Le marxisme, excusez-moi.
Oui, le marxisme. C'est le procès d'une volonté de changer la société. Et pour changer la société, il y a le prolétariat. Donc tout est au service du prolétariat. Mais c'est tout au service de l'homme qui doit changer la nature humaine. Vous voyez ? Donc c'est évidemment collectif. Ce n'est pas du tout la même chose que la primauté de la communauté. Parce que quand on parle de primauté de la communauté politique, on ne veut pas dire primauté de la caste dirigeante. On ne veut pas dire primauté d'une caste ou d'un parti ou d'une race. On veut dire que c'est le bien commun qui est premier. Alors vous auriez pu peut-être me poser une question sur ce bien commun, parce que j'ai utilisé la notion, et puis je n'en ai pas tellement parlé, je suis passé dessus rapidement. Je crois qu'on peut comprendre ce qu'est le bien commun simplement à partir d'exemples. Vous prenez l'exemple de la vie familiale. Qu'est-ce que c'est que le bien commun d'une famille ? Mais c'est le bonheur de la famille, c'est l'unité de la famille. Le bien commun, attention, ça pourrait être un contresens. Ce que j'entends par bien commun, ce n'est pas la propriété sociale, propriété commune. Bon, un jardin public, ce n'est pas un bien commun. Un jardin public, ce n'est pas un bien commun. C'est un bien qui, de soi, n'est ni commun ni particulier. Un jardin, c'est un jardin, c'est tout. Ce qui est commun, c'est ce qui, par essence, ne peut qu'être commun. Ce qui n'a pas d'existence individuelle. L'unité. Si vous parlez d'unité, ce n'est pas d'unité avec vous-même, ou alors c'est autre chose. Mais l'unité sociale, c'est bien quelque chose de commun. L'amitié, c'est un bien commun. Il n'y a pas d'amitié avec soi-même. Sinon au sens poétique, au sens métaphorique. Mais en soi, l'amitié, c'est un bien commun, vous voyez, c'est ça le bien commun. Le bien commun, c'est... On peut trouver des tas de synonymes pour désigner en fait la même chose. Le bien commun d'une famille, c'est le bonheur, c'est l'unité, c'est la concorde, c'est l'amitié. Mais tout ça, c'est la même chose, c'est ça le bien commun, vous voyez. Donc c'est pas la propriété commune. Hein. Ce n'est pas la maison commune, la maison familiale, c'est pas un bien commun. C'est un bien matériel qui n'est ni commun ni particulier. Parce que une maison, ça existe. Qu'elle soit commune ou particulière, une maison, c'est une maison, et puis c'est tout. Tandis que l'amitié, par définition, c'est commun. C'est ça le bien commun, voyez-vous. Donc dans la famille, tout doit concourir à l'unité de la famille. Y compris le bonheur matériel. Et si la prospérité matérielle réalise la division de la famille... Une famille qui est trop riche et qui donc devient trop égoïste, eh bien le bonheur matériel devient mauvais à ce moment-là, voyez. Alors transposé dans la vie familiale, je pense que c'est plus facile à comprendre, mais transposé au plan politique, bien, le bien commun, c'est ça, c'est l'unité du corps social, c'est l'harmonie du corps social, la concorde des citoyens entre eux. Voyez, c'est tout cela le bien commun. Ce n'est pas le produit national brut, voyez. C'est autre chose. Ce n'est pas non plus la force de la monnaie. On a complètement perdu ça de vue. On dit que le but de la société, c'est de favoriser l'épanouissement de la personne. C'est ce qui entraîne la ruine sociale. C'est le bien commun qui justifie le sacrifice des soldats pour leur patrie. Parce que si c'est pour l'épanouissement des individus, qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce qui m'oblige à aller me faire tuer? Bon, c'est peut-être favorable pour l'épanouissement des autres, mais pas pour moi en tout cas. Si je raisonne dans une optique personnaliste, je vois pas comment je peux être poussé à servir ma patrie. Par contre, si c'est pour le bien commun, qui en l'occurrence comporte aussi, ça fait partie du bien commun, la tradition, le patrimoine spirituel, culturel et matériel, à ce moment-là, oui, la terre-patrie est bien commune, c'est quelque chose de commun à ce moment-là. Alors oui, ça vaut le sacrifice, quand on a compris. Et voyez, cette primauté de la personne humaine est à la racine de l'antimilitarisme, est à la racine de toute la dégénérescence de la société humaine. C'est pourquoi lutter contre tout cet esprit moderne demande une rééducation complète, voyez. C'est à la famille, dans la famille même, qu'on commence à apprendre le bien commun. Le citoyen s'éduque dans la famille, au départ. Si dans la famille, les enfants sont habitués à l'égoïsme, il est inutile d'espérer qu'ils deviennent de bons citoyens plus tard. Ils n'ont même pas appris le bien commun dans leur famille. Comment voulez-vous qu'ils entendent parler du bien commun politique après? Pas possible.
Cette doctrine sociale de l'Église est-elle applicable aujourd'hui concrètement?
Bon. D'abord, je n'aime pas le terme doctrine sociale. Cette doctrine sociale de l'Église est-elle applicable aujourd'hui? Bon, d'abord, je n'aime pas ce terme doctrine sociale de l'Église parce que c'est un terme beaucoup trop ambigu. Parce que la doctrine sociale de l'Église, malheureusement, n'a depuis quelque temps déjà, et même avant Paul VI, a comporté pas mal de choses qui étaient un peu floues. Et on s'en est servi pour désigner un peu n'importe quoi. Disons plutôt la doctrine politique de l'Église, la doctrine publique, de droit public de l'Église, est-elle applicable? Alors, bon, je pourrais répondre de manière très simple. Il suffit d'observer la société actuelle pour se rendre compte que si l'on ne restaure pas dans les esprits la notion de bien commun, je dis restaurer dans les esprits, pas forcément par des cours de philosophie. Hein. Restaurer dans les esprits, c'est l'éducation. Bon. Si on ne restaure pas dans les mentalités cette notion du bien commun, nous allons à la ruine. Vous pouvez l'observer. Le libéralisme moral, la ruine de l'économie, la ruine de la politique, toute la société est en train de s'écrouler actuellement parce qu'il n'y a pas la notion du bien commun. Alors comment faire? Comment faire? Je pense que c'est une rééducation qu'il faut faire. C'est une rééducation. Donc c'est que je ne suis pas prophète, je ne connais pas l'avenir politique, je ne sais pas ce qu'on peut faire concrètement, ce n'est pas à moi de trouver les solutions, je dirais que ce n'est pas aux prêtres de donner des tactiques d'action politique. Je donne les principes. Mais la raison pour laquelle je pense que cette doctrine est applicable, c'est tout simplement que je pense que c'est la seule solution si on veut éviter l'anarchie ou le totalitarisme actuel. Parce que si les hommes n'ont plus la notion de bien commun, qu'est-ce qui peut les faire tenir ensemble dans la société? La dictature. La dictature. Prenez des phénomènes comme la pollution. Les écologistes n'ont pas tout à fait tort dans ce qu'ils disent. Hein? Mais comment voulez-vous arriver à une discipline concernant l'écologie s'il n'y a pas sens du bien commun? Bon, il faut mettre un gendarme à tous les carrefours. Seule solution. C'est la police ou le bien commun? C'est tout. C'est la police ou le bien commun. Alors, comme les gens ne sont pas vertueux, il faudra toujours de la police. Mais à partir du moment où il n'y a plus de notion du bien commun, on est obligé de multiplier les policiers. Parce qu'il n'y a plus que la crainte pour faire avancer. Et face à des problèmes comme la pollution, par exemple, il est clair que s'il n'y a pas de notion du bien commun, on ne pourra pas s'en sortir. Donc, c'est toute une mentalité qu'il faut réformer. Et commencer par la réformer en nous-mêmes. Et puis, quant à la question de la laïcité de l'État, c'est aussi une autre question, mais je pense qu'elle peut être comprise du fait que cette moralité publique et ce dévouement au bien commun ne peut pas être réalisé sans l'Église. parce que vous ne ferez pas pratiquer le sacrifice au bien commun par des hommes, par des discours de philosophie comme je vous ai fait ce soir. Certainement pas. Alors comment ? Comment par l'éducation ? Mais comment éduquer ? L'État peut éduquer par les lois, et par la police précisément, mais ça sera toujours extérieur. Et si on veut vraiment que l'âme intérieure soit réformée, il faudra l'éducation par l'Église. Et de fait, vous pouvez voir vous-même en Valais que de par l'écroulement de l'Église, eh bien les jeunes n'ont plus de moralité, n'ont plus de sens de la patrie et plus de sens de la vie commune. C'est le règne de l'égoïsme et de la vulgarité. Et ça, qu'on le veuille ou non, c'est une conséquence de l'écroulement de l'Église. Donc ne serait-ce que d'un point de vue politique, ici je me place du point de vue politique, du point de vue théologique c'est évident qu'il faut restaurer l'Église, mais je me place du point de vue politique. Même d'un point de vue politique, on peut observer qu'il n'y a que l'Église qui aura suffisamment de pouvoir pour pouvoir opérer cette éducation. Et d'ailleurs c'est ce qu'a fait l'Église, notez-le bien, parce que toute cette construction de la chrétienté médiévale qui est tant décriée, mais qui a réussi quand même à sortir l'Europe de l'anarchie, pour établir un ordre social, elle vient de l'éducation de l'Église. Et s'il y a eu la Renaissance, et s'il y a eu ce développement des doctrines modernes, c'est précisément parce que la chrétienté avait trop bien réussi. C'est qu'on a abouti à une prospérité matérielle qui alors a été recherchée pour elle-même, et c'est à ce moment-là qu'elles sont arrivées les doctrines du libéralisme. La chrétienté médiévale avait trop bien réussi, et l'économie, tout en étant très différente d'aujourd'hui, bien sûr, vu les moyens techniques, était quand même relativement prospère. Et c'est dans la prospérité que les hommes deviennent égoïstes, et que par conséquent, ils ont tendance à s'attacher aux doctrines libérales. La restauration politique passe par une éducation de la jeunesse et une éducation des familles. De faire retrouver le sens du bien commun. D'arriver à comprendre le bien commun. Et je crois que ce n'est pas des discours premièrement qu'il faut, c'est une éducation. Et ça commence dans la famille. Commence à la famille, dans l'école, dans tous les groupes, les mouvements de jeunes et autres, il faut apprendre le bien commun.
Moi, comme actuelle, cherche, disons, tend à prouver qu'elle cherche l'épanouissement de la personne humaine. Alors, prétend dire que l'épanouissement de la personne humaine passe par la recherche du bien commun?
Oui, le véritable épanouissement de la personne humaine passe par sa soumission au bien commun. De toute façon, oui, parce que mon épanouissement personnel, véritable, passe par mon ordonnance au bien commun. Donc de toute façon, c'est une ruine de la personne. Seulement pour le comprendre, il faut comprendre ce qu'est la finalité de la personne. Et ça, ils ne comprennent pas. Parce que dans une telle conception, l'épanouissement de la personne, c'est la satisfaction des passions, tout simplement. Il n'y a plus de morale d'ordonnance au bien commun, donc c'est la satisfaction des passions. Donc c'est en plus un faux épanouissement des personnes. Parce qu'il est clair que le bien commun, c'est le bonheur temporel. Si on veut être heureux en famille, il faut poursuivre le bien commun. Imaginez, ou constatez même, parce qu'il n'y a pas besoin d'imaginer, des familles où il n'y a pas de bien commun. Même si c'est la prospérité matérielle, les gens sont malheureux. Les gens sont malheureux. La question du divorce, c'est cela également, parce que tout foyer, toute famille passe par des difficultés. À partir du moment où les époux comprennent qu'ils doivent sacrifier leur égoïsme au bien commun de la famille, eh bien ils acceptent les difficultés qui surviennent toujours dans une famille. Mais à partir du moment où il n'y a plus de bien commun, où on leur recherche uniquement l'égoïsme, le divorce, c'est normal. Le divorce, c'est normal.
fait une constatation aujourd'hui de la situation. Vous dites qu'on se trouve dans une impasse, parce que l'Église qui veut normalement éduquer, enseigner, et puis qu'elle nous donne l'exemple du contraire, comment peut-on en sortir humainement? Il n'y a aucun espoir, il semble.
Alors, espoir humain de renaissance, oui, vous touchez un point très important, là, c'est que il est vain d'espérer une restauration politique s'il n'y a pas en même temps une restauration de l'Église. Et il est clair que nous constatons tous les jours que la situation présente de l'Église est à l'origine de la destruction politique. Donc, de fait, c'est par une restauration religieuse qu'on opérera la restauration politique. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'à cause du fait de la primauté de l'Église sur l'État, sur la communauté politique, et à cause de la primauté du bien spirituel sur le bien temporel, qu'il faille se préoccuper de l'Église, un point c'est tout, et puis la cité politique, on verra plus tard quand on aura le temps. Non, parce que in concreto, concrètement, les deux choses sont liées. Les deux choses sont liées. Donc, il n'est pas possible de concevoir l'un sans l'autre. Donc chacun doit travailler, je dirais, dans son devoir d'État. Ce qui est vrai, c'est que le plus important de tout ce que l'on peut faire, c'est la restauration de l'Église, donc la restauration du sacerdoce. Et donc la restauration du sacerdoce est primordiale. Et c'est de la restauration du sacerdoce que viendra la restauration de l'Église et la restauration politique. Mais ceci dit, ça ne veut pas dire, comme les deux choses sont liées concrètement, que les catholiques ne doivent se préoccuper que de questions religieuses et ignorer la situation politique. Parce que les deux sont liés concrètement. Donc il convient également d'opérer cette restauration politique. Et c'est ce qu'a fait l'Église. Avant même d'écrire cette doctrine, elle a été vécue. Et c'est ce qu'a fait l'Église médiévale, l'Église des pères de l'Église, tout simplement, qui ont réussi à reformer une certaine unité politique en Europe, et qui a été détruite après, qui a été refaite, disons, il y a eu donc l'écroulement de l'Empire romain, après la Renaissance carolingienne, l'écroulement de l'Empire carolingien, et de nouveau une certaine Renaissance politique. Ceci, c'était l'œuvre de l'Église, parce qu'elle comprenait très bien que les deux allaient ensemble. Alors, dans le cas de l'Église, comme dans le cas de la société politique, il faut bien avouer que nous n'avons pas de solution humaine en vue. Alors, pas très bien comment les événements peuvent évoluer, c'est surhumain, disons. C'est surhumain, ça nous dépasse complètement. C'est des événements que nous ne maîtrisons pas, nous sommes complètement dominés, il faut bien l'avouer. Bon. Mais ça ne nous empêche pas d'avoir les principes, de nous former et d'attendre les événements de la Providence. Je ne sais plus qui disait, le pouvoir ne se prend pas, il se donne. Il se reçoit, pardon. Le pouvoir ne se prend pas, il se reçoit. Oui.
Mais vous ne pensez pas, M. Lafay, qu'on a tout de même le devoir de s'impliquer dans la vie sociale au plus large sens du terme, parce que regarder et ne rien faire...
Tout à fait. Tout à fait. C'est bien ce que je veux dire, qu'on doit s'impliquer dans la vie politique. Parce que c'est une chose d'avoir nos principes tels que je vous les ai exposés. Ces principes sont faits pour être appliqués. Et donc on ne peut pas se préoccuper uniquement de la situation de la restauration de l'Église sans se préoccuper de la restauration politique. Ce n'est pas possible. Chacun a son devoir d'État et ses compétences. Les compétences du clergé, les compétences des laïcs. Mais il est clair que les laïcs ont le devoir de s'impliquer dans cette vie politique selon des moyens, alors qu'il m'appartient d'autant moins de donner que je ne suis pas d'ici. Donc je peux difficilement juger de la situation concrète et savoir ce qu'il faut faire concrètement. Mais il y a certainement quelque chose à faire, voyez. Parce que ça n'a jamais été, vous comprenez, ça n'a jamais été la tactique de l'Église de dire « on laisse tout s'écrouler et puis on recommencera à zéro ». L'Église n'a jamais fait ça, parce que recommencer à zéro, qu'est-ce que ça veut dire? On ne recommence jamais à zéro, l'Église est toujours partie d'une situation, les chrétiens sont toujours partis de la situation telle qu'elle était pour essayer de la remonter envers et contre tout. Alors les choses sont ce qu'elles sont, il ne s'agit pas de rêver ou de nous lamenter sur ce qui est dit autrefois. Les choses sont ce qu'elles sont aujourd'hui, nous devons travailler avec les moyens que nous avons aujourd'hui, selon les circonstances dont nous pouvons disposer, les moyens dont nous pouvons disposer. Oui.
Monsieur, encore une chose, vous voyez, par exemple, je crois que l'une des dégradations les plus pernicieuses du droit et du bien commun en conséquence, c'est ce qu'on appelle la morale de situation. On voit aujourd'hui les tribunaux juger toujours plus en fonction de cette morale de situation, malheureusement. Je viens de lire aujourd'hui un arrêté du tribunal fédéral sur... au niveau de la communication, par exemple, dans le journal, juges bien pensants, qui ne sont ni des socialistes, mais qui sont évidemment très libéraux, bien sûr, juger en fonction d'une situation donnée qui est absolument contraire au droit objectif. Mmh. Et je crois que si nous réagissons chacun de notre côté, nous arrivons à influencer encore aujourd'hui le jugement de ces personnes qui fait jurisprudence et qui pose pour l'avenir des jalons qui ne sont plus transformables. Au contraire, on ne peut aller que plus loin, on ne peut plus revenir en arrière. Mmh. Vous savez ce que c'est que la jurisprudence. Et là, on peut influencer par son action. Mmh. Pour moi, on peut les imaginer.
Oui.
Non,
je pense que, vous voyez, dans les élites politiques actuellement en place, bon, il y a un peu de tout, mais il est clair que si ceux qui ont des idées précises sur le droit voulaient avoir une influence et entreprendre quelque chose, ce serait possible. Il faut, comme vous le proposiez, essayer d'avoir une influence sur les magistrats, et puis je dirais soutenir ceux qui ont des bons principes, qui ont de bonnes idées, mais qui ont des idées confuses. Il y a un bon sens, vous comprenez, il y a un bon sens souvent chez beaucoup de personnes qui sont constituées en autorité. Mais derrière ce bon sens, il n'y a pas de structure philosophique, il n'y a pas de structure théologique. Alors ces personnes sont très fragiles. Et si elles sont, disons, assaillies par des oppositions, eh bien, leur conviction chancelle. Elle ne demanderait peut-être pas mieux que de recevoir de l'aide en tout genre, disons. Je crois que ça fait partie, dans la situation présente, ça fait partie de notre rôle, enfin de votre rôle, vous laïcs en tout cas, de vous concerter et puis d'essayer, tant bien que mal, d'exercer les influences qui sont possibles. Alors, ce n'est pas à moi de dire ce qui est possible, si c'est ce qui est espérable, mais il n'y a pas de raison de dire qu'on ne peut rien faire, c'est pas vrai. Il y a peut-être qu'en Chine actuellement on ne peut rien faire, et encore, vous voyez, je crois que c'est pas possible de baisser les bras. Je crois que c'est là nous quittons un peu le terrain politique pour entrer dans le terrain spirituel, mais ce n'est pas chrétien de désespérer et puis d'attendre une sorte d'intervention divine, vous voyez. On parle beaucoup de Fatima, des promesses de la Sainte Vierge, et on a raison. Mais on oublie une chose, c'est que Dieu agit par les causes secondes, c'est-à-dire Dieu agit par les hommes. Alors si Notre-Dame promet la victoire finale, il y aura la victoire finale. Et pour ça, il faut que le pape consacre la Russie au cœur immaculé, ce qui n'est pas encore fait. Bon. Et puis en plus, cette victoire finale s'obtiendra par le moyen de ceux qui travaillent, n'est-ce pas ? Sainte Jeanne d'Arc dit bien, les soldats batailleront et Dieu enverra la victoire. Et théologiquement, c'est très profond, cela. Théologiquement, c'est très profond. Parce que ça veut dire que si Dieu a décidé quelque chose, cela se fera, mais cela se fera par les hommes, et c'est à nous de le faire. Alors, nous attendons les décrets de la Providence, mais ce n'est pas se conduire conformément à la sagesse chrétienne d'attendre des événements surnaturels. Et les Français attendent de grands monarques. Il y a des Français qui attendent de grands monarques, qui doivent tout résoudre. Bon, eh bien, bon, à supposer même qu'il doit y avoir un grand monarque, à supposer que ce soit vrai, hein, le grand monarque ne pourrait rien faire s'il ne dispose pas d'une élite d'hommes politiques qui prennent les choses en main et qui tiennent le pays. C'est impossible. Vous voyez. Et actuellement, je crois qu'il y a un grave devoir de la part des laïcs de se concerter pour pouvoir mener ces actions politiques, ces actions de propagande, ces actions de tout genre qui peuvent contribuer à maintenir ce qui peut être maintenu, à tenir ce qui peut être tenu dans tous les domaines où c'est possible.
Cette politique aboutirement, c'est aussi lié au droit de l'homme et tout ça, alors
oui.
Les ouvertures des frontières.
Oui, alors ça, c'est un. Disons que ça nous entraînerait un petit peu trop loin, oui. C'est-à-dire qu'il y a un mépris des patries charnelles, concrètes, réelles, au profit d'une utopie de la conscience humaine universelle. Donc, conscience humaine universelle, humanité, au détriment des patries réelles. Donc, ouverture des frontières et aide au tiers-monde qui d'ailleurs leur fait beaucoup de mal parce que là encore, au lieu de les éduquer au bien commun, on satisfait les égoïsmes en leur donnant de l'argent, tout simplement. Parce que c'est la dernière chose à faire. Je pense que...